tenait énormément à cette différence. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'Europe s'impose au centre des préoccupations de Hugo von Hofmannsthal. Le 31 mars 1917, il prononce à Berne sa conférence intitulée « L'idée d'Europe », pour laquelle il a utilisé des notes fournies par son ami Rudolf Borchardt et dont le manuscrit sera publié en juillet 1930, au lendemain de sa mort, dans la revue européenne fondée par le prince Rohan. L'idée d'Europe, commence-t-il, nous avons grandi avec elle, son effondrement est pour nous une expérience bouleversante. Mais Hofmannsthal ajoute, l'unité de l'Europe n'est pas géographique, son unité n'est pas non plus une unité ethnique, son essence est idéologique et spirituelle. Puis Hofmannsthal distingue les principales phases de l'idée d'Europe. La première, dit-il, originelle, à peine consciente d'elle-même, celle d'un Occident chrétien opposé aux païens, une Europe vécue dans les grandes prédications des siècles de croisade comme mission, vocation, délégation, diffusion d'une civilisation hégémonique ressentie comme la plus haute. Seconde forme de l'idée, celle de la Renaissance. Caution commune, écrit Hofmannsthal dans ses notes, caution commune de tous ceux qui participent à la latinité pour la résurrection et la conservation de cet héritage fondamental. La littérature antique, conçue comme littérature immortelle, qui continue à vivre en face de la littérature moderne, idéal et langue communs à tous. À la civitas dei se joint la res publica literaria, ajoute Hofmannsthal. L'organe de cette caution commune, les correspondances européennes. Et il continue en disant, autre forme de ce concept est la plus haute, l'humanisme allemand. Après avoir cité Herder et Schiller, Hofmannsthal se réfère à Novalis, Humboldt et Goethe. Novalis, le caractère allemand et le cosmopolitisme alliés à l'individualité la plus puissante. Humboldt, dans le caractère national allemand, il trouvait grand et beau que celui-ci ignore les limites naturelles d'autres caractères nationaux, et s'élève avec une plus grande pureté et liberté vers l'humanité universelle. Attitude de Goethe à l'égard de la Révolution française et de Napoléon, et ici une citation en français, une phrase en français dans le texte de Hofmannsthal, « Chaque homme a deux pays, le sien et puis la France ». Au XIXe siècle se forme, estime Hofmannsthal, ce qu'il appelle une idéologie flottante, pour laquelle l'Europe se confond avec l'humanité, chez Saint-Simon, chez Michelet. Cette idéologie, estime Hofmannsthal, se nourrit d'un pathos nouveau, de la tolérance, qui prend la place du pathos ancien propagandiste. Mais Hofmannsthal remarque que cette idée du XIXe siècle n'est pas apolitique, mais antipolitique. Et il ajoute que par là même, elle est facile à récupérer par, dit-il, une volonté de puissance froidement politique, comme en son temps le pape maniait l'idée d'un Occident chrétien. Cette mainmise de la politique sur l'idée d'Europe depuis la Révolution française et l'Empire napoléonien a eu pour conséquence, aux yeux de Hofmannsthal, un très dangereux rétrécissement. Elle a fini par transformer l'Europe en espace commercial. Elle a donné les pleins pouvoirs à l'argent, Dit Hofmannsthal, l'argent, nœud de l'existence, support de la magie noire. L'argent n'a-t-il pas le pouvoir de se mettre à la place de Dieu ? Ajoute Hofmannsthal. Ce qui caractérise le temps présent, c'est, nous dit-il en 1917, un sentiment sourd de détresse, horreur de l'Europe, ressenti par Tolstoï, horreur de la finance, exprimée par Romain Rolland. Cette idée d'Europe fatiguée, exténuée, ne pourra renaître que parmi les individus, pense Hofmannsthal, dans ce qu'il appelle la communauté silencieuse de ceux pour qui l'Europe est ressentie comme la couleur fondamentale intellectuelle de la planète et pour qui la culture européenne est posée en norme absolue. Mais à cet endroit, Hofmannsthal ne voit plus qu'un nom à citer en exemple, Nietzsche. En conclusion de cette conférence sur l'idée d'Europe, il évoque les deux préfigurations de l'Europe qu'il faudra tenter de reconstruire sur les ruines de la guerre, la Suisse et l'Autriche. Celui qui dit « Autriche », conclut Hofmannsthal, dit naturellement « lutte millénaire pour l'Europe, mission millénaire confiée par l'Europe, foi millénaire en l'Europe ». Pour nous, demeurant sur le sol de deux empires romains, allemands, slaves et latins, élus pour porter un sort et un héritage commun, pour nous, en vérité, l'Europe est la valeur fondamentale. La région centre-européenne, qui, aux yeux de Hofmannsthal, compte le plus parce qu'elle est censée donner l'exemple de la symbiose des peuples au sein de la monarchie habsbourgeoise, c'est la Bohême et sa capitale, Prague. Déjà en janvier 1915, Jaroslav Kvapil, le poète et auteur dramatique qui était à cette époque le directeur du Théâtre national de Prague, avait exprimé son désaccord avec l'article de Hofmannsthal intitulé « L'approbation de l'Autriche ». Kvapil écrivait à son ami viennois « Trop longtemps, le peuple de Bohême a été opprimé par l'absolutisme, la germanisation et le catholicisme. » Lors de son voyage à Prague en juin 1917, Hofmannsthal perdra ses dernières illusions. Il constatera les progrès du sentiment national tchèque et l'hostilité grandissante envers la politique habsbourgeoise. En mai 1917, Jaroslav Kvapil a signé, avec plus de 200 écrivains et intellectuels de Bohême, le manifeste des écrivains tchèques qui proclame l'aspiration et le droit des Tchèques à l'indépendance nationale. Au même moment, Hofmannsthal est profondément choqué par le parti pris de beaucoup de nationalistes tchèques de considérer les minorités allemandes de Bohême et de Pologne comme quantité négligeable pour l'identité des futurs États indépendants. La lettre de Hofmannsthal à Bodenhausen du 10 juillet 1917 exprime un profond désarroi. « Vous n'avez pas idée de ce qui se produit présentement en Autriche, peuple contre peuple, au beau milieu de la détresse commune, l'addition de tout le siècle présentée d'un seul coup, les compromissions et les fautes vieilles de plusieurs siècles, redevenues présentes et prêtes à réclamer leur tribut de sang versé. Voilà l'agonie, la vraie, du millénaire Saint-Empire romain germanique. » Le 15 novembre 1917, lorsque fut publié dans la Revue d'Autriche, un organe de propagande intellectuelle, un résumé des positions de Hofmannsthal sous le titre « La vocation de l'Autriche », le projet d'un Reich centre-européen, fédératif et multiculturel apparaissait déjà comme une utopie hors d'atteinte. Tant que l'existence même de la monarchie danubienne n'est pas encore mise en cause, c'est-à-dire jusqu'à l'armistice et au traité de Saint-Germain, on perçoit dans les écrits de Hofmannsthal une force de conviction incontestable. Mais à partir de 1919, on a le sentiment que sa pensée européenne tourne dans le vide, comme il l'écrit à Joseph Redlich, historien et dernier chef de gouvernement de la monarchie habsbourgeoise. « Avec l'effondrement de l'Autriche, j'ai perdu le terreau dans lequel je suis enraciné. » Ce désespoir entraîne Hofmannsthal dans deux voies sans issue. D'un côté, il explore la face la plus sombre du mythe habsbourgeois, celle que caractérise la formule de « guerre des races »,« Rassenkampf » de Ludwig Gumplowicz, celle d'une Europe centrale livrée aux luttes sociales et interethniques. C'est le royaume de Pologne livré à l'anarchie que présente la deuxième version de « La Tour ». Dans cette version de 1926, le jeune roi messie d'une nouvelle communauté des peuples et des classes est abattu d'un coup de fusil. La tyrannie sanguinaire d'Olivier, préfiguration du fascisme, l'emporte sans partage. Lecteur attentif du Mitteleuropa de Friedrich Naumann, publié en 1915, Hofmannsthal ne pouvait pas approuver les tendances grandes allemandes qui inspiraient le projet naumannien d'un ensemble mitteleuropéen au sein duquel l'Autriche-Hongrie aurait été condamnée à l'Anschluss avant la lettre. Le projet de Naumann était avant tout géopolitique. Il visait à donner des contours raisonnables à l'impérialisme allemand destiné à dominer le centre de l'Europe entre l'Ouest français et anglais et l'Est russe. Naumann prenait surtout en considération les aspects économiques, tandis que la culture européenne n'était pas le principal de ses soucis. Sans doute aussi parce qu'il le considérait comme trop exclusivement préoccupé d'économie et de diplomatie, Hofmannsthal n'a pas rejoint non plus le pan-européen Coudenhove-Kalergi. C'est plutôt du mouvement du prince Karl Anton Rohan, fondateur d'une ligue pour la culture, le Kulturbund, et de la Europäische Revue, revue européenne, que Hofmannsthal se sentait proche, parce que la culture était au centre du programme du prince Rohan. La caution qu'apporta Hofmannsthal à la revue européenne est restée célèbre. Un petit article de sa plume ouvre le premier numéro de la revue. Renvoyant aussi bien les cosmopolites que les nationalistes à leur chimère, il prend fait et cause pour la tentative restauratrice du prince Rohan dans un plaidoyer en faveur d'une redéfinition culturelle de la notion d'Europe qu'il utilise en réalité comme un synonyme de la notion de civilisation, en affirmant que les principaux phénomènes artistiques, culturels ou philosophiques sont d'essence européenne. Il ne faudrait cependant pas accorder une importance excessive à ce soutien. Hofmannsthal avait également applaudi à la création en 1919, sous l'égide d'Henri Barbusse et de Romain Rolland, du groupe Clarté, et répondu en termes favorables à l'enquête menée par Coudenhove pour la revue Pan-Europa sur la naissance des États-Unis d'Europe. Le grand théâtre du monde salzbourgeois de Hofmannsthal se révèle en réalité très proche de la réaction catholique de son ancien ami, de son vieil ami Léopold von Andrian. Les ouvrages d'Andrian, Les ordres de l'univers, conception du monde rationnel d'un écrivain catholique, 1930, et L'Autriche dans le prisme de l'idée, Catéchisme des dirigeants, 1937, présente la quintessence, peut-être aussi la caricature, de la vision hoffmannstallienne de l'essence autrichienne. Andrian y célèbre les idées du commandement et de l'obéissance librement consentie, du noble exercice de la souveraineté, tout en condamnant la décadence des temps modernes, la civilisation occidentale capitaliste aussi bien que le communisme. Andrian, comme Hoffmannsthal, vit et souffre de ce que l'historien Clemens von Klemperer, parlant des nostalgiques de la monarchie habsbourgeoise, appelait la présence fantomatique de l'ancien Reich. Cette idée de Reich s'oppose aux idées de nation et de folk, considérées comme les pires ennemis de l'ordo-catholique, mais aussi à l'Allemagne, tenue pour l'usurpatrice et la falsificatrice du Reich germanique. Andrian n'a pas pris clairement ses distances envers l'état corporatiste chrétien d'Engelbert Dollfuss, et dans l'entre-deux-guerres, il s'est rapproché de l'idéologie fasciste. Le fameux discours de Munich de Hugo von Hoffmannsthal en 1927 répond à la préoccupation de sortir des frontières de la petite Autriche pour s'adresser au public allemand. Hoffmannsthal prononça cette conférence intitulée « Les écrits, espace spirituel de la nation » le 10 janvier 1927 dans l'auditorium maximum de l'Université de Munich et publia son texte d'abord dans la Neue Rundschau en juillet, puis sous la forme d'une plaquette aux éditions Bremer Presse de Munich en octobre 1927. Il avait été invité par l'association Argonautes, fondée en 1924, qui avait déjà fait venir Heinrich Mann, Rudolf Borchardt, Heinrich Wölfflin et quelques autres personnalités. La conférence avait été organisée en collaboration avec la société Goethe et placée sous le patronage du romaniste Karl Fossler, alors recteur de l'université, dont Hoffmannsthal appréciait les travaux de linguiste, historien du français littéraire des origines à nos jours, traducteur et commentateur de la Divine Comédie. Fossler était aussi un spécialiste de Racine et de La Fontaine, de Leopardi et de Lope de Vega. La conférence de Hoffmannsthal fut un grand événement. Tous les billets avaient été vendus, l'amphithéâtre était débordant, le maire de Munich, le ministre-président, le ministre des cultes de Bavière, plusieurs écrivains, Hans Carossa, Hans Joost, Emil Praetorius, Karl Wolfskehl étaient présents. Dans ce discours, il n'est plus question d'austriacité ni de Reich, sans doute pour ne pas rallumer la vieille querelle du dualisme austro-prussien, ni même de Mitteleuropa, mais d'espace et de nation. L'espace culturel est lui-même défini par la langue. Beaucoup de traits de cette conférence et surtout la fameuse formule « Le processus dont je parle n'est rien d'autre qu'une révolution conservatrice d'une portée inouïe dans l'histoire européenne » ont conduit à placer Hoffmannsthal dans le camp de la révolution conservatrice. Et pourtant, le Reich suggéré en 1927 par Hoffmannsthal n'avait rien à voir avec Das Dritte Reich de Müller van der Broek, publié 3 ans plus tôt en 1922. Chez ce dernier, il s'agit le plus souvent d'une mystique du Reich à la fois nébuleuse et inquiétante, où se mêlent un élitisme du type de celui de Stefan George dans Das Neue Reich. Et il faut rappeler en passant que tout de même le vocable de Reich était tout à fait neutre à l'époque, puisque la République de Weimar elle-même était définie par le droit public comme un Reich. Chez Müller van den Broek se mêlaient donc des visions nébuleuses à la Stefan George aux visions impérialistes et pan-germanistes. Chez Hofmannsthal, les allusions à Stefan George sont indiscutablement présentes, mais on voit avec soulagement, à la fin du discours de Hofmannsthal, revenir des éléments qui donnent à l'idée de Reich des contours historiques et intellectuels plus précis et plus rassurants. On n'y trouve en particulier aucune des diatribes anti-françaises qui constituent le signe de reconnaissance de la révolution conservatrice allemande. Au contraire, la nation française se voit idéalisée dans ce discours comme l'exemple parfait à suivre par le monde allemand d'une communauté de langue dans laquelle le peuple et l'écrivain parleraient avec les mêmes mots. Hofmannsthal entend par révolution conservatrice un mouvement interne opposé à la révolution spirituelle du XVIe siècle que nous avons coutume d'appeler Renaissance et Réforme. Ainsi s'exprime le mythe habsbourgeois dans sa version hofmannsthalienne. Il s'agit pour Hofmannsthal de corriger les deux mots introduits en Occident à l'époque de la Renaissance, l'individualisme qui a détruit l'ordo et la Gemeinschaft, la communauté, livrant les consciences à l'inquiétude et aux illusions de la liberté, détruisant les liens sociaux, historiques et religieux qui assignaient à chacun son rôle dans le grand théâtre du monde, et la réforme qui a entraîné l'Europe dans les guerres confessionnelles et nationales. Dans cette perspective, la révolution conservatrice, selon Hofmannsthal, n'est pas autre chose qu'une restauration culturelle et politique du Saint-Empire, fidèle au catholicisme romain, tenu pour seul capable d'unir la nation allemande et d'introduire un ordre en Europe centrale, dans l'Europe du milieu. Seul capable aussi de restituer une forme, écrit Hofmannsthal, et il faut comprendre ce mot au sens le plus large, forme du langage, forme de vie, forme de l'art et de la littérature contre le moderne ressenti comme informe. Cette vision hofmannsthalienne en 1927 prêtait aux pires confusions. Cette utopie réactionnaire au sens le plus fort et le plus pur du mot suscite aujourd'hui encore beaucoup d'incompréhension. Hofmannsthal n'était pas un animal politique. C'est son autoportrait qu'il a peint dans le protagoniste de sa comédie « L'homme difficile » d'Herr Schwierige, composé entre 1917 et 1920, dont la première eut lieu au Residenztheater de Munich le 8 novembre 1921. L'homme difficile, le comte Hans Karl Bull, a été officier pendant la guerre. Il a frôlé la mort et ses souvenirs du champ de bataille affleurent à plusieurs reprises. L'Europe et l'Autriche ont changé. Pourtant, il parle toujours des institutions de l'Ancien Régime, du Herrenhaus par exemple, la chambre haute où les grandes familles possédaient un siège héréditaire. Hans Karl, on me dit que je devrais, lors de la séance d'après-demain à la Chambre, fêter mes débuts d'orateur. Hechingen, et tu veux refuser encore une fois ? Hans Karl, vais-je donc me lever et faire un discours sur la réconciliation des peuples et la concorde des nations ? Moi qui suis convaincu qu'il est impossible d'ouvrir la bouche sans provoquer la plus incurable confusion. Plutôt renoncer à mon siège héréditaire et me cacher toute ma vie durant comme un hibou dans ma tanière, je devrais me remplir la bouche d'un torrent de paroles dont chacune me semblerait absolument indécente. Claudio Magris voit dans cet homme difficile une des illustrations les plus frappantes du mythe habsbourgeois. Hans Karl, écrit-il, est l'homme qui ne sait pas agir, qui comprend beaucoup de choses, mais se trouve perpétuellement entravé par une trop profonde conscience des contradictions de la vie et par une répugnance innée à l'action. Ainsi, le type de l'identité viennoise dans l'homme difficile rejoint le type humain de l'homme sans qualité selon Robert Musil. On peut comparer Hofmannsthal, auteur profondément pénétré, en tout cas depuis les années de guerre, de la réalité et de la profondeur historique du caractère autrichien, et Robert Musil, même si celui-ci se moque explicitement de l'idée même de caractère. Musil n'explique-t-il pas, au début de l'homme sans qualité, que l'habitant d'un pays a au moins 9 caractères, un caractère professionnel, un caractère de classe, un caractère sexuel, un caractère national, un caractère politique, un caractère ethnique, un caractère conscient, un inconscient, sans compter le caractère privé, et qu'il faudrait y ajouter un 10e caractère qui, dit Musil, n'est rien d'autre que l'imagination passive d'espaces non encore remplis. L'homme difficile de Hofmannsthal apparaît à son entourage comme un homme sans caractère. Le paradoxe consistant à bâtir une comédie de caractère de tradition moliéresque sur un protagoniste aussi faible en apparence a cependant conduit Hofmannsthal à une de ses plus parfaites réussites littéraires. Le comte Bull éprouve une admiration éperdue pour le clown Fourlani, dont il fréquente les spectacles avec beaucoup plus d'assiduité que les salons viennois et le Herrenhaus. Il trouve, dit-il, plus d'esprit dans ses mimiques drôles et tristes que dans toutes les conversations mondaines. Les champs de bataille ont fait de lui un homme muet. Selon l'expression de Jean Paulhan, chacun sait que les soldats de 1914, quand ils allaient chez eux en permission, demeuraient muets, comme si chaque homme se trouvait mystérieusement atteint d'un mal du langage. Carrie Bull parle aussi peu que possible pour éviter les malentendus. C'est lorsqu'il garde le silence qu'Hélène comprend sa déclaration. Aux yeux de son admirateur, le laconisme de Bull passe pour une suprême élégance. Tu parles peu, tu as l'air si distrait, et pourtant tu fais tellement d'effets. Tu occupes ton siège à la chambre depuis 1 an et demi et tu n'y prends jamais la parole. La crise de langage que traversait Chandos, le brillant disciple de Francis Bacon, qui ne pouvait plus se fier aux mots de la grande parlerie des lettrés, et qui se réfugiait dans le silence, faute d'avoir atteint la langue des choses muettes, cette crise du langage que Hofmannsthal présentait autour de 1900 comme la crise du poète moderne, est à présent considérée comme le symptôme le plus frappant de la crise culturelle européenne. L'essai de 1927 de Hofmannsthal, Prix et honneur de la langue allemande, publié quelques mois après la conférence de Munich, les écrits Espace spirituel de la nation, affirme que le destin de la langue allemande aurait consisté en un développement divergent de la langue poétique et de la langue courante, de telle sorte que ce qui nous manque, c'est la langue moyenne, ni trop élevée, ni trop basse, qui mettent en œuvre la sociabilité des membres de la nation. Dans son parler, c'est l'individu qui se manifeste. Dans la langue tout entière, c'est la communauté. Entre les mots de la conversation courante règne un je ne sais quoi qui fait qu'ils forment entre eux une sorte de famille, même s'ils renoncent tous ensemble à exprimer ce qu'ils ont de plus profond. Notre langue allemande courante d'aujourd'hui, au contraire, est un conglomérat de langages individuels. En somme, il manque au monde allemand, selon Hofmannsthal, une rhétorique commune qui se substituerait à la poussière des partis et des rhétoriques personnelles, à la solitude et à l'angoisse des individus. Dans sa conférence de Munich, Hofmannsthal explique pourquoi il préfère cette expression de « Schrifttum » que l'on a traduit en français par « les écrits » à celle de littérature. Le « Schrifttum » englobe toutes les traces écrites d'une culture, de la correspondance à l'article de journal, tandis que la notion de littérature ravive la coupure qui divise le peuple en personnes cultivées et en masse un culte. La France, dont Hofmannsthal affirme qu'elle est de tous les pays de la Romagna le plus proche de l'Autriche, assertion qui peut sembler paradoxale si l'on songe aux liens tout aussi anciens et étroits de l'Autriche et de l'Italie ou de l'Espagne, la France est à ses yeux le pays d'Europe qui a la littérature, le schrifttum les plus vivants, car elle posséderait une langue moyenne. En France, aurait pu s'imposer depuis l'âge classique une norme langagière qui aurait servi de fondement à une tradition culturelle en perpétuel renouvellement. Cette tradition française aurait une profondeur historique telle que tout créateur, au temps présent encore, qu'il soit conservateur ou réactionnaire, pourrait se rattacher. Poursuivant son tableau, à vrai dire mythique, de la France littéraire, Hofmannsthal suggère que cette parfaite symbiose de la langue, de la nation et des écrivains rend tout naturel l'engagement politique de la littérature. Emporté par la logique de son opposition de la France à l'Allemagne profondément divisée, Hofmannsthal écrit « La littérature des Français garantit leur réalité, la nation devient une communauté de croyances qui inclut la totalité de la vie naturelle et culturelle. » C'est précisément cette communauté culturelle qui permet la transmission de la tradition. Au contraire, l'écrivain allemand et autrichien n'a pas de véritable contact avec ses contemporains et la société ne s'appuie pas dans ces pays sur des traditions vivantes, estime Hofmannsthal. Même Goethe, pense-t-il, n'a pas créé de véritable tradition en Allemagne. La tradition du classicisme weimarien, un siècle plus tard, se révèle superficielle et fragile. Ici, Hofmannsthal retrouve le fil de son nietzschéisme des années 1890. Il va toujours dans le sens des considérations inactuelles, de la critique du philistin de la culture, de l'heureux possédant de la Bildung enfermée dans les reliures des monumentales œuvres complètes qui garnissent sa bibliothèque. Mais Hofmannsthal se montre à présent, en cette fin des années 20, beaucoup plus sévère que naguère envers le type nietzschéen de l'investigateur, ces intellectuels absolument isolés, mais qui s'efforcent pourtant de se lier par les liens les plus élevés, ces quasi-inconnus qui, çà et là, font autorité secrète, des hommes nombreux ou rares, insaisissables, clandestins et inefficaces, prétendent incarner la conscience de la culture nationale, mais ils ne sèment qu'anarchie et individualisme. Individualisme, écrit Hofmannsthal, brûlant derrière eux les vaisseaux de leur tradition, célébrant l'effondrement des mondes anciens et saluant des aubes chimériques. Coupés de son peuple, ces intellectuels prétendent couper de leur peuple, ces intellectuels prétendent néanmoins au rôle de guide. On reconnaît une allusion à Stefan George et à son épigone Rudolf Panwitz. Cet intellectuel météore, se détachant du chaos avec la prétention d'être un maître et un guide, le souffle du génie sur son grand front, le stigmate de l'usurpateur dans ses yeux intrépides et dans ses oreilles dangereusement modelées. Ce maître néglige la tâche la plus urgente, préalable, dit Hofmannsthal, à la reconstitution de l'espace spirituel de la nation. Parfois, il se bat pour la langue, mais sans participer à la création d'une norme de langage dans laquelle la nation se lierait pour parvenir à une unité véritable. L'autre type intellectuel est le gardien de la tradition, l'esthète conservateur, le moine bénédictin, veillant sur les écrits, sacrifiant son originalité personnelle au culte de l'héritage, l'homme de l'historicisme et de la philologie, cherchant à défendre et à illustrer la norme éthique qu'il croit pouvoir dégager de l'accumulation de Bildung. Hofmannsthal songeait sans doute à ses amis Borchardt et Schröder. De toute évidence, il ne considérait aucune de ces deux formes d'héroïsme intellectuel, celle du Suchender, de l'investigateur, du chercheur, et celle du pieux philologue, que Nietzsche appelle antiquaire dans sa seconde inactuelle, comme satisfaisante. La révolution conservatrice que Hofmannsthal appelle de ses voeux à la fin du discours de Munich n'est pas contre-révolutionnaire, mais salvatrice. Elle voudrait viser au renversement de toutes les tendances de l'époque. Claudio Magris parle à propos de cette conférence de Munich de Hofmannsthal, grand conservateur de la civilisation austro-hongroise. Mais la formule est évidemment ambivalente. Hofmannsthal est devenu le conservateur d'un musée historique, non le porteur d'une idée d'avenir. Dans la dernière grande pièce achevée par Hofmannsthal, dont il a donné trois versions successives entre 1923 et 1926, La Tour, le chaos du monde et la ruine du langage sont mis en parallèle. Entre le jargon grossier d'Olivier, le chef des rebelles qui met le royaume à feu et à sang, et les tirades mensongères du roi Basile, l'usurpateur, aucune communication n'est plus possible avec le prince Sigismond, qu'on a toujours gardé prisonnier dans sa tour, une tour d'ivoire transformée en cachot. On lui a enseigné le latin, mais il sait à peine s'exprimer. Sa voix est émouvante et enfantine. Il s'exprime comme les anges. La conquête du beau langage, un thème qui fait de Sigismond un frère de Caspar Hauser, notait Walter Benjamin, se traduit dans la pièce par la métaphore du vêtement. Prisonnier de la tour, Sigismond est nu, vêtu seulement de peau de bête. À la fin du deuxième acte, dans la version achevée fin 1924, au moment où son geôlier s'écrit « Maintenant, ce qu'il dit est beau comme dans un livre », Sigismond revêt un manteau princier. Devenu le chef et l'espoir de son peuple, il donne à entendre une langue oubliée, inouïe, régénérée, lui dont le nom fait songer à Bouche de la Victoire. Le messianisme du prince Sigismond dans la tour passe par cette réévaluation fondamentale de la parole, censée restaurer la tradition perdue dans les institutions et dans la loi écrite. Mais la fin de la deuxième version de la tour en 1926 est beaucoup plus pessimiste. Sigismond se laisse entraîner dans l'action guerrière. Alors surgit Olivier, la brute bardée de cuir et de métal, qui prétend que le peuple n'a pas de langue et ne comprend que les images. Sigismond meurt assassiné par ses soldats sans qu'apparaisse aucune perspective de salut. Sorti de sa tour, le prince poète n'a pas pu mener à bien la révolution conservatrice. Hofmannsthal n'avait pas ménagé sa peine pour animer la République des lettres dans l'esprit de la vocation européenne de l'ancienne Autriche. La fondation du Festival de Salzbourg, la création des éditions Bremer Presse en 1922, la fondation en 1922 aussi et la direction de la revue Neue Deutsche Beiträge, où furent publiés des articles de Benjamin, revue interrompue en 1927 par les difficultés financières, la publication des anthologies destinées au grand public Deutsches Lesebuch, première édition 1922, deuxième en 1927, et Valeurs et honneurs de la langue allemande, publiée en 1927, d'innombrables conférences, une abondante correspondance. Toutes ces activités ne furent durant les années 20 que celles d'un prince enfermé dans sa tour, mais aussi celle d'un écrivain engagé dans une société qu'il ne comprenait plus et qu'il ne pouvait plus approuver. Et cependant, Et finalement, c'est le découragement et le désespoir qui l'emportent. À la fin des années 20, Hofmannsthal apparaît comme le représentant de ce que Stefan Zweig appellera le monde d'hier et d'un âge révolu de la République des lettres européennes.